tous les lundis soirs.
Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux. Et on retrouve avec plaisir autour des micros Pierre Barry.
Ah oui, avec plaisir, bonjour.
Et Michel Lafond, donc, pour vous parler des 6 de 8 films nouveaux sur les affiches des cinémas manceaux. Une jeune fille qui va bien, Les Promesses, Un Monde, Presque, My Hero Academia, World Heroes Mission, Nos âmes d'enfants, Municipal, L'Ennemi, on n'a pas tout vu, mais on en a quand même vu quelques-uns. On va commencer dans 5 minutes avec Une jeune fille qui va bien, et pour la musique, eh bien, on a été picoré soit dans Une jeune fille qui va bien, soit dans Nos âmes d'enfants. Eh bien, on commence donc par un titre qui s'appelle Love Letters. Love Letters, c'est le groupe Metronomy, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Love Letters, Metronomy, un titre que l'on entend dans Une jeune fille qui va bien. Oui, alors ça sera un petit peu une musique anachronique parce que le film se passe dans les années 42 exactement. 42. Mais c'est voulu, bien entendu, par la réalisatrice, justement, parlons-en, Sandrine Kiberlin, réalisatrice scénariste née en 68. Elle avait auparavant réalisé un court-métrage, c'est son premier long-métrage. Et puis, on la connaît surtout comme actrice. On l'a vu récemment, par exemple, dans Les Deux Alfred, On est fait pour s'entendre, Amoureux de ma femme, Mon bébé, Pupille, Quand on a 17 ans, Floride, etc., etc. On ne va pas faire toute la filmographie de Sandrine Kiberlin. Le film Jeune fille qui va bien est proposé par les cinéastes, avec, ma foi, 2 séances par jour, et la durée du film, 1h38. Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 42. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. Qu'en pense la presse ? Eh bien, Caroline Vier, dans 20 minutes, déclare qu'une jeune fille, qui va bien offre un rôle magnifique à Rebecca Marder. Christophe Foltzer, dans Écran large, le passage de Sandrine Kiberlin derrière la caméra est une réussite. Son film est incroyable de justesse et d'intelligence, que ce soit à travers sa mise en scène, son écriture ou le talent de sa distribution. Yves Jéglé, le Parisien, dans son premier long-métrage derrière la caméra, l'actrice propose un regard neuf et déchirant sur l'occupation à travers le portrait d'une amoureuse de la vie de 19 ans, juive. Car elle fit aussi dans Paris Match, c'est à la fois grave et lumineux, très personnel et tristement moderne. Julien Marcillon, Télé 7 jours. Pour son premier long-métrage derrière la caméra, Sandrine Kiberlin signe avec une maîtrise impressionnante et une sensibilité constante. La pulsion de vie de son héroïne palpite à chaque plan. Un très beau film, Sophie Grassin dans l'Obs. Abrupt, le final décoche une flèche au cœur, je suis d'accord. Ad Diatki, Libération, le pari de Sandrine Kiberlin est ardu, conjuguer la fougue et la légèreté de la jeunesse avec la tragédie historique, sans que celle-ci ne soit directement perceptible, au risque de faire basculer son film dans une tonalité parfois un chouïa trop ténue. Céline Rouden dans La Croix, l'actrice signe un film touchant mais maladroit sur une jeune juive bien décidée à vivre sa jeunesse malgré la menace d'occupants allemands. Et enfin, Muriel Joudet dans Le Monde, le premier film de Sandrine Kiberlin dérange par son désancrage historique excessif. Donc, je répète, le film est proposé par le cinéma Les Cinéastes. C'est le portrait d'une jeune fille, comme le titre l'indique si bien, une jeune fille vive, enthousiaste, insouciante, fougueuse, pleine de joie de vivre, entourée d'une famille aimante et unie, son père, son grand frère, sa grand-mère. Elle découvre également l'amour pour la première fois. Son rêve, eh bien, c'est aussi de devenir comédienne. Et pour cela, elle prépare avec ses camarades le concours d'entrée au Conservatoire d'art dramatique en répétant avec assiduité et passion une scène de Marivaux. Mais, on est sous l'occupation et Irène est juive. Voilà, donc c'est un film qui vaut quand même surtout pour ses parties pris de mise en scène plus que par son enjeu et son épilogue inéluctable dès le début. Même si cet épilogue est conclu par une fin abrupte qui est une belle trouvaille de mise en scène, je trouve. Alors la mise en scène, elle est sobre, elle refuse absolument la reconstitution d'époque. L'époque est hors champ, c'est un parti pris de mise en scène. Certes, c'est sûr, mais c'est peut-être dû aussi simplement à un manque de moyens financiers pour faire de la vraie reconstitution, ça je ne sais pas. Mais enfin bon, Sandrine Kiberlin va à l'essentiel, se répète un peu beaucoup d'ailleurs, hein, forçant sans doute sur l'insouciance d'Irène, qui ne peut quand même pas être aussi naïve sur la situation faite aux Juifs à ce moment-là à Paris. On est en 1942. Elle a 19 ans. Elle est quand même pas complètement tombée de la dernière pluie. Alors le film révélera au grand public Rebecca Marder. Elle est vraiment éblouissante. Elle a un charme fou et on peut lui prédire à coup sûr un brillant avenir dans ce rôle, même si je trouvais que son jeu était peut-être plus théâtral que cinématographique. Je dirais qu'elle en fait beaucoup dans la spontanéité, mais bon, c'est sûrement voulu par la direction d'acteur. Donc c'est un film plaisant, mais sans plus, je dirais, un film aux enjeux limités, qui touche forcément la réalisatrice parce que c'est inspiré d'une histoire familiale. C'est peut-être aussi à conseiller, évidemment, aux jeunes qui voudraient devenir acteurs, parce que c'est aussi un éloge du théâtre. Voilà, donc, ce que je peux dire sur une jeune fille qui va bien. À toi, mon petit Pierre.
Alors, je suis d'accord pour Rebecca Marder, mais pour le film, je vais être très vilain aujourd'hui. Ah. Je vais faire comme lorsque j'ai adoré. Je vais détacher les cils pour vous dire que j'ai détesté. Ah. Ce film est une catastrophe dans laquelle je me suis ennuyé de bout en bout. 1h40 de non-événement. 1h40 où il ne se passe rien, sinon une romance sur fond de cours de théâtre. Quelques bonnes chansons, quand même, m'ont sorti de ma torpeur vers la fin du film. Fin qui peut surprendre et que je ne dévoilerai donc pas. Sandrine Kiberlin, je t'aime beaucoup en tant qu'actrice, mais là, derrière la caméra, pas vraiment. Alors je t'en prie, Sandrine, continue à jouer des rôles devant la caméra.
Bon, voilà qui est sévère, mais bon, voilà,
oui, c'est sévère.
Voilà. Allez, on change de cinéma, on passe au film qui s'appelle Les Promesses, et Les Promesses, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film de Thomas Kruithof, je pense ne pas écorcher son nom, à Thomas Kruithof, ce n'est pas son premier métrage, c'est son deuxième. Il avait réalisé en 2017 La Mécanique de l'Ombre avec François Cluzet et Denis Podalydès, réalisateur et scénariste. Thomas Kruithof, 1h38 pour son film, maire d'une ville du 9-3 du 93, de Seine-Saint-Denis, bref, hein. Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Ce sera son dernier combat avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches et renoncer à ses promesses? C'est la point d'interrogation. Olivier de Bruyne dans Les Échos, le film passionnant de Thomas Kruithof met en scène la mère d'une ville moyenne et déshéritée de Seine-Saint-Denis, confrontée à d'innombrables difficultés et aux pièges de la politique incarnée par une Isabelle Huppert irréprochable, captivant du premier au dernier plan. Car Olivier dans l'Obs, Les Promesses évite le manichéisme du tous pourri pour croquer des personnages complexes, souvent contraints de choisir entre leurs idéaux et ambitions. La rédaction du Parisien parle d'un long métrage original et captivant. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, ce drame social incarné à la perfection fonctionne comme un thriller avec ambition, faux-semblant et trahison. Stéphane Joby dans Le Journal du Dimanche sur un sujet peu vendeur, la politique et le mal logement. Thomas Kruithof compose avec habileté un récit attrayant et même haletant. Marie-Lou Duponchel dans Les Inrecuptibles, encombré par quelques superflus scénaristiques, le film parvient à donner à voir une vision complexe de l'exercice du pouvoir qui n'est dans le fond qu'une négociation entre l'individu et le groupe, entre nos convictions et leur possible réalisation, et s'autorise même sur sa fin à convoquer un esprit humaniste proche de celui des fables de Franck Capra via l'action d'un héros bon mais retors. Paris Match, Fabrice Leclerc déclare que le film est intéressant mais manque de chair. Et Laura Tullier, Libération, peu inspirée à la mise en scène, chant contre chant, emballé, c'est pesé, Les Promesses n'a pas grand-chose à apporter à la représentation du politique et de ses faux-semblants, et se cantonne à une exploration très mécanique des concepts ambition, probité, idée, action, pouvoir personnel et exigence démocratique. Les Promesses, 1h38, proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. C'est un film à suspense sur la politique, plus d'ailleurs qu'un véritable film politique de pure dénonciation. C'est fait une, il y a une nuance entre les deux, hein, un film à suspense sur la politique. C'est un film sur la confrontation qui peut exister entre idéaux généreux et ambitions personnelles. Il est question d'une femme mère, une mairesse, ça ne me plaît pas trop, donc je dirais une femme mère, qui à la fin de son deuxième mandat d'élu a à cœur de réussir la réhabilitation d'une cité délabrée de sa commune du 93, de Seine-Saint-Denis. Pour cela, eh bien, elle doit se battre avec le pouvoir central pour obtenir la subvention qui permettrait d'atteindre son objectif. Mais tout n'est pas si simple, car de multiples obstacles vont se dresser devant elle. Alors, je vous en dis pas plus, évidemment. Alors, je reconnais que je n'ai pas réussi à tout saisir dans les détails sur les questions de copropriété, de règlement et de loi sur le logement. Ça, c'est clair. Ça va vite et c'est quand même assez technique par moment. Alors, j'aurais plaisir à revoir le film pour démêler tout cela en mettant des pauses quand je le regarderai sur DVD ou en streaming. Mais cela n'empêche pas d'apprécier un film sans temps mort, aux nombreux rebondissements, alors certains peu crédibles, j'en conviens, mais bon, ça permet de parler d'enjeux sociaux comme le problème des marchands de sommeil, des enjeux de politique locale et nationale qui se télescopent, d'ambition, de loyauté, de trahison, de magouille, de petits arrangements, notamment sur la façon d'obtenir, ou non, une investiture pour un siège de député ou de maire ou un Marocain de ministre, voilà. Et ça permet aussi d'illustrer la fameuse phrase dont je ne sais si elle est vraiment de Charles Pasqua, mais c'est à lui qu'on l'attribue, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent ou ceux qui les reçoivent. Voilà, c'est réalisé de façon rythmée, sans manichéisme, hein. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est brillamment interprété par Isabelle Huppert, ultra crédible dans ce rôle de femme politique, prise entre différentes priorités. Elle est à la fois manœuvrière, rusée, obstinée, et elle écoute également, voilà. Et puis il y a également Reda Kateb, que j'aime beaucoup comme acteur, et le duo fonctionne vraiment parfaitement. Incarnation de personnages complexes, mus par des pensées contradictoires. C'est assez passionnant dans le genre thriller politique, magnifique parce que c'est tendu, c'est réaliste, ça montre toutes les difficultés, tous les chausse-trappes, tous les conflits d'intérêts et de loyauté auxquels peuvent être confrontés les élus locaux obligés d'arbitrer en permanence entre des intérêts contradictoires. C'est pour moi le film de la semaine, Les Promesses, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Eh bien, notre ami Pierre ne l'a pas vu, mais il va y aller, c'est sûr, parce que vu l'éloge que je viens de faire, on ne peut pas rater ça.
Bon, Isabelle Huppert, c'est toujours bien, oui. Voilà. En général.
Alors, petite pause musicale. On va cette fois-ci chercher un titre dans nos âmes d'enfants. Le titre, c'est The Ostrich. C'est le groupe The Primitives, un groupe dans lequel il y a Lou Reed. Et donc, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. The Ostrich, The Primitives. C'est tout de suite.
Okay, I want everybody to settle down now. We got some news we're going to show you, man. It's going to knock you dead when we come upside your head. You get ready? You said he'll go, yeah. All right, come on. Come on. Come on, let's go. Yeah. All right. Everybody get down on your face, man. Get ready, yeah. Okay, come on. Hey, put your hands up. Upside your knees, that feels the awesome. Yeah, 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 yeah. You take this forward, you step on your head. That feels the awesome. All right. Yeah, here we go. Woo! Woo! All right. Feel the awesome. You take a step forward, then you turn to the right.
Le groupe The Primitives sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, un titre que l'on entend dans le film Nos âmes d'enfants. Nos âmes d'enfants, on en parle dans un petit quart d'heure. Là, on va parler du film Un monde. Ce film est proposé uniquement par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. C'est un film réalisé par Laura Vandel, réalisatrice scénariste belge. C'est son premier long métrage. Elle avait auparavant réalisé un court métrage et là, on est dans un film qui dure 1h15. Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive à hauteur d'homme, à hauteur d'enfant plus exactement, excusez-moi, une plongée immersive à hauteur d'enfant dans le monde de l'école, à hauteur d'enfant, c'est très important, hein, Pierre va confirmer. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, une proposition forte, maîtrisée de bout en bout, qui tient aussi bien du drame familial que de l'expérience. Catherine Ball dans Le Parisien, un film magistral sur le harcèlement scolaire. Françoise Delbecq dans Elle, une expérience immersive, ultra réaliste. Xavier Le Herpeur dans L'Obs, en plaçant sa caméra à hauteur d'enfant, j'insiste bien, à hauteur d'enfant, Laura Vandel, signe un premier film au scalpel, taraudé par l'inquiétude à un âge où ne devrait régner que l'insouciance. Sandra Onana Libération, dans une impressionnante fiction immersive sur l'enfance qui vire au récit de prévention, Laura Vandel filme la société miniature de la cour de récréation. Thierry Chasse première, on en ressort chaos, bouleversé et impressionné. Jacques Maurice Télérama, si le jeu, la joie, l'acquisition du savoir sont aussi de la partie, si le film tend vers une forme de salut possible, il reste poignant, nous saisissant plus d'une fois la gorge en créant une profonde empathie pour le frère meurtri et sa sœur atteinte par ricochet. Véronique Coappé dans Le Monde, une expérience dont on ressort l'esprit chamboulé et le corps rompu. Éric Neuhoff, Le Figaro, il n'était peut-être pas utile de filmer tout cela avec une caméra à hauteur d'enfant, parti pris qui vire au procédé et dessert le propos d'un pessimisme lucide. Valentine Guégan, dans Un cahier du cinéma, l'identification recherchée repose sur un principe d'isolement et de restriction. Nora n'est montrée qu'au sein de l'établissement, en particulier pendant la récréation, sans caractérisation psychologique extérieure. La caméra s'en tient au point de vue de son corps timide qui évolue dans un environnement majoritairement flouté. Le film donc a été présenté au cinéaste et Pierre l'a vu. Donc Pierre, à toi.
Ah là, ce coup-ci, je vais être gentil.
Bon.
C'est fou comme les enfants peuvent être cruels parfois envers leurs semblables, surtout lorsqu'ils sont plus petits. Car c'est bien de harcèlement à l'école dont il s'agit ici, sujet on ne peut plus d'actualité. Toutefois, en dehors de la situation dramatique que subit Abel, j'ai trouvé ce film plein de fraîcheur grâce à Nora, la petite sœur, interprétée par Maya van der Beek. Ça sonne bien belge, ça.
Oui.
Oui, c'est elle le personnage central du film, en fait. On s'attendait à ce que ce soit le garçon, mais non. C'est la petite fille que l'on voit le plus souvent. J'ai apprécié d'ailleurs la façon de filmer de la réalisatrice Laura Vandel, où l'on voit la plupart du temps le visage de Nora, plein cadre, nous laissant apparaître toutes ses émotions. J'ai beaucoup aimé ce film belge très réaliste, où l'on en oublie même parfois que c'est une fiction.
Oui, donc ça s'appelle Un monde.
Je te le conseille, Michel.
Par les cinéastes. Presque, presque, c'est un film de Bernard Campan et Alexandre Jolien, proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Presque, alors Bernard Campan, c'est un acteur bien connu, il fait partie des inconnus justement, hein. Acteur, réalisateur, scénariste né en 58. Alexandre Jolien, lui, c'est un philosophe suisse né en 75. Pour Alexandre Jolien, c'est son premier long métrage, mais Bernard Campan avait co-réalisé avec Didier Bourdon Les Trois Frères, Le Paris, Les Rois Mages. 2006, il avait réalisé tout seul La Face Cachée avec lui-même et Karine Viard et Jean-Hugues Anglade. 2013, retour à la co-réalisation avec Les Trois Frères, Le Retour. Sinon, récemment, on l'a vu, Bernard Campan, dans des films comme Un sac de billes et Le Café du Pont. Et puis, bien sûr, dans Le Cœur des Hommes, 1, 2 et 3. Voilà, donc, pour ce film, eh bien, 1h32, deux hommes prennent la route de Lausanne vers le sud de la France dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils. Corinne Renoux-Nativelle dans La Croix, la tendre sincérité de Bernard Campan et la candeur espiègle d'Alexandre Jolien, épatant de naturel, font merveille pour nous offrir cette réjouissante échappée belle. Olivier Delcroix dans Le Figaro parle d'une comédie délicate sur le handicap. La rédaction du Parisien, pas mièvre et délicatement métaphysique, le film monte en puissance jusqu'à un final magnifique. Maroussia Dubreuil dans Le Monde, cette tendre comédie fait le pari plus subtil de la gémellité, assumant dès les premières minutes un terrain d'entente possible. Télé 7 jours, Julien Barcillon, un road movie initiatique plein de bons sentiments sur le vivre ensemble. On connaît la chanson. Et pourtant, on se laisse vite séduire par les bonnes ondes inclusives et la belle complicité du tandem Campan-Jolien. Hélène Marzoff dans Télérama, difficile de ne pas adhérer au message de tolérance de ce feel-good movie sur l'amitié et le vivre ensemble, au ton sympathique mais au scénario parfois désarmant de simplisme. Fabrice Leclerc dans Paris Match, cousu de fil blanc, prévisible dans son écriture et pauvre en cinéma, mais il en ressort aussi un regard plutôt intelligemment posé sur la différence et les préjugés sur le handicap. Thierry Chasse en première, cet éloge du vivre ensemble et de l'acceptation de la différence souffre d'un aspect un peu trop programmatique et donc sans réelle surprise pour convaincre pleinement. Presque, c'est proposé par le Pathé Quinconce et par le Méga CGR. C'est la rencontre sous la forme d'un road movie, oui, qui devient un buddy movie, ben oui, je m'y mets moi aussi, hein, entre un entrepreneur de pompes funèbres suisse et un handicapé qui ne se serait sans doute jamais rencontré sans un accident de circulation. Louis, le croque-mort, renverse Igor, handicapé. Louis, il est croque-mort et surtout quelqu'un de plutôt solitaire, limite taciturne. Igor, lui, le coursier en vélo, il est féru de philosophie, il est bon comme le pain, il ne voit le mal nulle part. Bon, bref, par un concours de circonstances, ils vont être amenés à faire la route ensemble dans le corbillard qui amène le cercueil d'une défunte de la Suisse à Montpellier. Et au cours de ce voyage, eh bien, ils vont apprendre à se connaître à s'apprécier au point qu'une réelle amitié va naître entre eux. Alors c'est un film, bon, vous l'avez compris, sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence, ici c'est le handicap, le fameux vivre ensemble et l'inclusion, hein, ça c'est la tarte à la crème absolue en ce moment, le vivre ensemble, l'inclusion, bref. C'est typiquement le genre de film où, si on en dit du mal, on passe pour un salaud absolu, sans cœur. Alors ça biaise forcément un peu le jugement, mais bon, malgré cela... C'est vrai que, en définitive, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie. On reste dans les dénominations anglaises. Mais c'est quand même attachant, touchant, parfois drôle, sans doute exagérément optimiste, parce que je suis pas du tout certain d'une bienveillance quasi généralisée à l'égard des handicapés, comme on le voit dans le film. Hein. Bon, Bernard Campan est excellent, avec un jeu tout en nuances, dans un personnage qui n'est ni franchement sympathique, ni même antipathique non plus. Désabusé, on comprendra pourquoi vers la fin du film, mais capable de bienveillance. C'est un personnage qui évolue au cours du film. Alexandre Jolien, lui, il incarne un personnage sûrement très proche de sa véritable personnalité. C'est un film donc profondément humain, à quelques maladresses près. Cela évite quand même de verser dans une sensiblerie outrancière. Il y a une vraie tendresse qui naît de cette relation entre les deux hommes qui, nous dit-on, sont vraiment amis dans la vie depuis bien longtemps, mais reconnaissant quand même que l'évolution de l'histoire est ultra prévisible, comme l'ont souligné certains critiques, et que j'approuve d'ailleurs. My Hero Academia, Academia, c'est une boîte Hero Academia, World Heroes Mission. C'est un film qu'on peut voir au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Et oui, c'est un film d'animation japonais de Kenji Nagasaki. Et ce Kenji Nagasaki, qui il a à son actif, eh bien, en 2019, un premier My Hero Academia qui s'appelait Two Heroes. En 2020, My Hero Academia Heroes Rising. Et là, ça s'appelle World Heroes Mission. Ça fatigue pas beaucoup pour les titres. Hein. Le monde est en grand danger. Considérant les haltères comme un fléau, l'organisation Humarize a décidé d'éradiquer les détenteurs de ses pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes, exacerbant les haltères jusqu'à en tuer leurs possesseurs. Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe, alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour endiguer la menace. Deku se trouve accidentellement impliqué dans un incident et activement recherché par les autorités. Mais l'horloge tourne et ils n'ont que 2 heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril d'une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui des héros repose désormais entre leurs mains. J'ai l'impression d'avoir lu du chinois, je n'ai rien compris, mais c'est pas grave. Et je pense que les critiques sont comme moi, parce que j'en ai pas trouvé un seul dans une revue de presse. Ah. Il semblerait que ce soit très très couru par les jeunes fans de Japanimation, comme on dit aujourd'hui. Et pour que le film ait droit à 3 copies sur la ville du Mans, avec des VO, hein, mais attention, hein, même il y a des VO, même il me semble au Méga CGR. Il n'arrive qu'une fois tout, à peu près autant que souvent que la comète de Halley repasse dans le ciel, à peu près. Voilà, donc, on n'a pas vu, et j'ai surtout pas envie d'aller voir un film où je ne vais rien comprendre, et surtout que ça dure quand même 1h44. Voilà. Allez, petite pause musicale, on revient à un titre que l'on entend dans une jeune fille qui va bien, ça s'appelle Part-Time Love, c'est Jacob Banks sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Microphone, my dear. 10-4, we hear you loud and clear. Mr. Daniels makes you so sincere. When the morning comes, you forget why we are here. Part-time love. Down Broadway, yeah, you're living
not your dreams. It's friendly fire. Oh, I'm not the enemy. Oh, no, no. I'll walk the wire. Time love, you come in every shade of blue. Oh no, our time love, I'm always running back to you. Won't you let me be? Oh no, no.
Part-time love, Jacob Banks, un titre que l'on entend dans Une jeune fille qui va bien. Nos âmes d'enfance, un film qu'on peut voir exclusivement au cinéaste, 2 séances par jour. Le film dure 1h48, croyez-moi en laissant. C'est un film de Mike Mills. Mike Mills est un réalisateur, scénariste et même acteur à l'occasion américain, né en 66. Il a réalisé auparavant en 2005 Âge difficile obscur avec Tilda Swinton et Vincent D'Onofrio. 2010 Beginners avec Ewan McGregor, Mélanie Laurent et Christopher Plummer. Et 2016 20th Century Women, Annette Bening, Greta Gerwig et Elle Fanning. Voilà, moi j'ai vu les deux derniers Beginners et 20th Century Women. Alors, nos âmes d'enfants, le titre anglais c'est Come On, Come On. Oui. Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie. Sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils Jesse. Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera leur vision du monde. Françoise Delbecq, dans Elle, parle d'un petit chef-d'œuvre de tendresse et d'énergie. Olivier Delcroix dans Le Figaro, la mise en scène intelligente de Mills, empreinte d'une belle sensibilité, fait la part belle à la rêverie et à l'improvisation. Joaquin Phoenix, lui, est bouleversant de tendresse et d'humanité. Barbara Théâtre du Journal du Dimanche, dans un noir et blanc élégant qui renforce le sentiment d'intimité. On suit l'étonnante relation d'apprivoisement entre deux êtres que tout sépare, mais que la solitude rapproche et que la tendresse mutuelle va rendre plus fort. Jean-Baptiste Morin, Les Inrecuptibles. Le film très bavard décrit un homme qui ne sait pas trop quoi faire de lui-même, ni d'un enfant qui se sent orphelin. Sans craindre le moins du monde la psychologie et la mélancolie, le film de Mills, délicat, sensible, ne dramatise jamais les situations, cherche toujours à adoucir les choses. La rédaction du Parisien, on s'y ennuie par moments, on est touché à d'autres, mais le film se laisse regarder pour au moins une bonne raison. Il offre à Joaquin Phoenix, épatant dans le rôle de Johnny, l'une de ses rares compositions légères et détendues, ce qui fait assez plaisir à voir. Maroussia Dubreuil dans Le Monde, nos âmes d'enfants ressemblent à ces dimanches après-midi qui n'en finissent pas, sinon dans une crise de nerfs, ici entre deux arbres, lors d'une balade en forêt. Je pense qu'il y en a qui vont apprécier.
On va plutôt pencher par la
première, Frédéric Foubert, sur le vieux schéma de l'adulte et de l'enfant condamné à tailler la route ensemble, Mike Mills signe une dramédie, c'est bien comme terme, mièvre et trop apprêtée, le noir et blanc est très voyant, qui échoue dans son ambition de mêler l'intime à une vision panoramique des États-Unis et du monde. Voilà, donc ça s'appelle Nos âmes d'enfants et c'est donc prévu, c'est visible au cinéaste. Johnny, donc, c'est un journaliste chargé de faire des interviews de jeunes américains pour la radio sur le thème « Comment voyez-vous l'avenir, le vôtre, celui du monde ?» Alors, il se voit un jour confié par sa sœur son jeune neveu de 9 ans, Jesse, pendant que, justement, sa sœur doit s'occuper de son ex-mari placé dans une clinique psychiatrique. L'homme et le garçon qui ne se connaissent pas vraiment vont s'apprivoiser, si on peut dire, au cours de longues conversations lors du voyage qu'ils effectuent, tous deux à travers le pays pour recueillir les interviews. Personnellement, c'est le genre de film qui m'ennuie profondément parce que totalement introspectif, ultra bavard. Et comme je ne suis absolument pas touché par les thèmes existentiels abordés ou les relations intimes entre les personnages, pas seulement l'oncle et le neveu, mais aussi le frère et la sœur, la mère et le fils et d'autres encore, Je ne pourrais malheureusement pas dire le moindre bien de ce film que j'ai trouvé interminable. Alors déjà, pourquoi est-il en noir et blanc ? Sûrement pour faire arty. Intéressera-t-il le public ? J'en doute beaucoup, sauf à être touché par ces interminables conversations entre le gamin, alors certes très mûr pour son âge, et son oncle, entrecoupé de ses interviews sur l'avenir du monde tel qu'imaginé par les jeunes intervenants, quasiment tous d'ailleurs inquiets du futur. On peut trouver cela tendre, délicat, sensible. Pas moi, et je suis pas sûr que Pierre...
Je vais s'attendre
délicat, Michel, et sensible.
Ouais, je te suivre, ouais. 1h50 de dialogue entre un adulte et un enfant, c'est long. C'est très long. Oui. On a beau voyager à travers les États-Unis, de Détroit à Los Angeles, de Los Angeles à New York, de New York à New Orleans, les dialogues sont incessants, car ce n'est pas d'un road movie dont il s'agit ici. Certes, il y a Joaquin Phoenix, dont le talent n'est plus à prouver, mais bon, ça ne m'a pas suffi. De plus, si vous ne parlez pas anglais, enfin américain pour le cas, accrochez-vous pour déchiffrer les sous-titres, incessants eux aussi et riches. Bon, vous l'avez compris, je n'ai guère accroché à ce long métrage, dont le titre, tu l'as dit Michel, est loin du titre français, c'est Come on.
Exactement, voilà, donc au moins on est d'accord, nos
oui,
enfants...
Oui, on n'a pas aimé. Hein.
Voilà, bien. Municipal, on n'a pas vu, mais Municipal, on va en parler quand même. C'est un premier film de Thomas Polo, réalisateur, scénariste et directeur de la photo. C'est proposé par les cinéastes et Municipal a droit à, en général à une séance, enfin pas en général, a droit à une séance par jour, durée 1h49. La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire quand un individu inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus n'est autre qu'un comédien qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique. Michael Mélinard dans l'Humanité municipale figure un drôle d'objet hybride, fascinant mélange d'expérimentation sociologique et de documentaire. Ce cinéma du réel dynamite les formes en insérant un comédien à l'équation du récit, à la manière d'Alain Cavalier dans Pater. Didier Théron dans Libération, ovni cinématographique mettant en scène la vraie fausse candidature d'un comédien à la mairie de Revin, dans les Ardennes, le film de Thomas Polo dérange et finalement séduit par sa capacité à dépasser le dégoût du politique. L'Obs, Xavier Lerper, un peu long mais formidablement impertinent. Première, Thierry Chaise, souffrant de baisse de rythme, Municipal raconte cependant avec acuité ses coins de France gangrénés par le chômage, où le mouvement des Gilets jaunes a trouvé sa source. Alors, précisons que Municipal est proposé par les cinéastes et que, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, le réalisateur Thomas Polo viendra présenter son film à une séance et j'ai pas retenu quel jour. Donc, on vous
le
dira.
C'est le soir, en tout cas.
Oui, c'est forcément le soir, mais j'ai pas retenu quel jour. On vous le dira la semaine prochaine. Municipal, donc, c'est au cinéaste. On n'a pas vu Municipal. On n'a pas vu non plus L'Ennemi. L'Ennemi, c'est un film de Stéphane Strecker. Stéphane Strecker, c'est un réalisateur belge. Et Stéphane Strecker, eh bien, son film est proposé par le cinéma Le Colisée. Alors, Stéphane Strecker, il a réalisé auparavant des films. En 2004, Michael Blanco, semble-t-il inédit en France. 2013, Le Monde nous appartient, par contre distribué avec Vincent Rottier et Olivier Gourmet. Et en 2016, Noce, voilà, donc pour ce réalisateur scénariste belge, Stéphane Strecker. L'Ennemi, donc je répète, proposé par Le Colisée, durée 1h45, avec Jérémy Régnier notamment et Alma Jodorowsky, la fille de... du fameux Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky. Un célèbre homme politique est accusé d'avoir tué son épouse, retrouvée morte une nuit dans leur chambre d'hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait, et peut-être lui non plus. François Forestier dans l'Obs, plongée psychologique, portrait d'une Belgique fracturée. Le film est fascinant et déroutant. La clé de tout, c'est Alma Jodorowsky, petite fille du réalisateur d'El Topo. Elle est vénéneuse, exaspérante, ultra sexy, une vraie découverte. Jérémy Couston dans Télérama, Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky forment un couple à la fois puissant et sans cesse au bord du gouffre, passionnant à regarder, s'aimer et se consumer. Yannick Joly dans Paris Match, le premier acte pose les bases d'un thriller torturé avec une réelle maîtrise derrière la caméra. Dommage que le scénario s'éparpille dans une seconde partie carcérale, trop bavarde, qui dilue le mystère initial. Jean-François Roger dans Le Monde, un jeu artificiel mais habile sur la culpabilité et l'innocence, la vérité et l'apparence, la réalité et la morale. Et enfin, Thierry Chaise en première, en dépit de la capacité du réalisateur à créer une ambiance étouffante, L'Ennemi s'avère trop bancal et trop artificiellement tortueux pour convaincre. On n'a pas vu. J'aurais eu envie d'aller le voir, mais ben, il faut faire des arbitrages et donc ben, il est passé
faut
à la
faire un choix.
Voilà, L'Ennemi. C'est proposé uniquement par le Colisée. Allez, un petit tour à nouveau dans la bande originale du film Nos âmes d'enfants. Et c'est Irma Thomas, Anyone Who Knows What Love Is. Je reprends. Anyone Who Knows What Love Is. et sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Anyone who knows what love is, Irma Thomas, et c'est un titre qu'on entend dans Nos âmes d'enfants. Comme on a largement le temps, on va faire d'abord les avant-premières et ensuite on vous donnera les films de la semaine prochaine. Alors les avant-premières, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on commence par dimanche. Dimanche, c'est surtout pour les enfants, les films. Alors, il y a déjà Hopper et le hamster des ténèbres. Hopper et le hamster des ténèbres, c'est un film d'animation. Alors, il est proposé à 11h Omega, à 13h45 au Colisée et à 14h10 au pâté. Voilà. Donc ça, c'est pour Hopper et le hamster des ténèbres. Toujours au pâté, 14h30, Vaillant. Là aussi, film d'animation. On continue dimanche, toujours, mais cette fois-ci plus tard, à 18h, Omega, super-héros malgré lui, au Colisée, 18h, super-héros malgré lui, et pâté, 18h30, super-héros malgré lui. On continue avec les avant-premières. Lundi, cette fois-ci, c'est au Méga CGR, en présence du réalisateur, le film Compagnon. Moi, je l'ai vu. C'est très intéressant sur les compagnons du devoir. Sinon, le film n'a pas un intérêt colossal. C'est une histoire de jeunes de banlieue, de cité, et de rédemption, de réhabilitation pour le travail. Mais c'est passionnant sur les compagnons du devoir. Rien que pour ça, il faut voir le film. On continue avec les avant-premières. Mardi soir, donc, eh bien... cette fois-ci, c'est Omega CGR, à nouveau super-héros malgré lui. Et on continue encore les avant-premières. Jeudi, c'est une équipe de films qui débarque au pâté pour le film Goliath. jeudi 20h15 au Pâté. Alors j'en oublie certainement des avant-premières, tellement il y en a. Mais voilà, ça c'est les avant-premières. Hopper et le hamster des ténèbres, ça c'est dimanche. Vaillante, dimanche, uniquement au Pâté. Ensuite, toujours le dimanche, super-héros malgré lui, au Colisée, au Pâté, au Méga. Et puis lundi, au Méga CGR, Compagnon, en présence du réalisateur François Favra. Je sais pas si l'actrice principale y sera, mais il y a certainement quelqu'un dans la distribution qui sera au présent. Et puis donc Goliath, 20h15 au Pâté, en présence du réalisateur. Et là, je ne sais plus quel est ce réalisateur, mais je vais le retrouver d'ici peu. Allez, un petit tour du côté de Tom Waits qu'on entend dans le film Jeune fille qui va bien. Le titre All the World is Green with Love sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et après, on annonce les films de la semaine prochaine.
Against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend that you
sur Tom Waits, je vais vous annoncer d'autres avant-premières que j'ai oubliées parce que les cinéastes eux aussi font des avant-premières. C'est le cas le samedi à 20h30, After Blue, Paradis Salle, avant-première du film de Bertrand Mandico. Donc samedi 20h30, et auparavant à 18h, il y a un précédent film de Bertrand Mandico, Les Garçons Sauvages. Voilà, et puis c'est aussi vendredi la soirée bis menstruelle, spécial Mario Bava, c'est pour ceux qui aiment les films d'horreur d'autrefois. Il y a donc deux films de Mario Bava, un à 20h et un à 21h45. Donc répétons un peu pour les avant-premières du cinéaste. À samedi, donc à 20h30, After Blue Paradis Salle. Je ne sais pas si le réalisateur vient, je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait attention.
Je ne crois pas.
Non,
tu crois pas, hein. C'est pas annoncé.
Non. Et puis, à 18h, on pourra voir un de ses précédents films, Des Garçons Sauvages. Voilà, alors pour les films à l'affiche la semaine prochaine, là aussi, les cinéastes, je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'ils proposent 5 films, ils n'ont que 4 salles, Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, surtout qu'il y a tous les autres films qui sont en continuité. Alors, il y aura Red Rocket avec Sean Baker, Sean Baker avec Simon Rex, je ne connais pas ça. Arthur Rimbaud, ça a l'air intéressant, de Laurent Canté, très intéressant comme film. Autre film au cinéaste, de Souvenir, et The Souvenir Part 2 de Johanna Hogg. Donc là, par définition, il y a deux films, The Souvenir Part 2. Est-ce qu'ils seront enchaînés ou pas, ou qu'est-ce, je ne sais pas. Il devrait y avoir aussi Introduction de Hong Sang-soo. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il va y avoir certainement des séances, une séance par jour pour certains films. Bon, c'est comme ça. Les autres films à l'affiche ailleurs, eh bien, il y aura Vaillante, le fameux dessin animé dont je vous ai parlé tout à l'heure avec avant-première déjà dimanche, au pâté. Il y aura Les Jeunes Amants de Karine Tardieu avec Fanny Ardant et Melville Poupeau, Cécile de France. Je l'ai vu, c'est un film intéressant, ma foi. Les Jeunes Amants. Il y aura donc Super-Héros Malgré Lui, le film de Philippe Lachaud. Là, ça va faire plaisir aux exploitants, parce que, en général, les films de Philippe Lachaud font pas mal d'entrées. Super-Héros Malgré Lui, donc avec des avant-premières, donc déjà dimanche, je le répète, Oméga au pâté et au Colisée, et même mardi soir aussi, au Méga. Voilà donc et au Colisée aussi. Voilà donc les films à l'affiche de la semaine prochaine. Donc Red Rocket, Arthur Rimbaud, Vaillante, Les Jeunes Amants, Hopper et le Hamster des Ténèbres, The Souvenir Part 2, Introduction et Super-Héros Malgré Lui. À mon avis, on est bientôt en vacances, non? Parce que Vaillante et Hopper, c'est les dessins animés.
Il reste une semaine d'école encore.
Donc, c'est bien ça. Le 2 février, le 5 seront les vacances.
À partir du 5, oui.
Donc, voilà l'explication. Allez, cette semaine, Pierre vous recommande...
Sans hésiter, Un Monde.
Et moi, Les Promesses. Voilà, c'est déjà pas mal.
En plus, c'est un film court, donc ça passe vite.
C'est vrai. Donc voilà, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. À la semaine prochaine.
Au revoir.